Lors du dernier cours, vous avez situé la place du traité de la grâce dans la somme théologique de saint Thomas et présenté la prima secundae dans son ensemble, sans évoquer la vertu. Mais oui, j'étais rapidement, hein, vous voyez bien, la vertu est placée dedans en fonction du fait même qu'elle est passion. Il faut arriver à cela. Pourquoi saint Thomas traite-t-il de la vertu dans la prima secundae, puis des vertus dans, parce qu'il traite de la vertu dans la prima secundae d'une manière générale. Alors il montre de l'utilité de la vertu. L'utilité de la vertu, c'est qu'on lutte contre les passions risquent toujours de l'emporter, et alors nous luttons pour maintenir un aspect proprement de la volonté. Et c'est pour ça que la vertu existe. La vertu, c'est parce que la nature n'est pas parfaite, n'est pas achevée. Vous voyez, comme Dieu laisse au soin de l'homme de compléter l'univers, Dieu laisse au soin de l'homme de compléter le petit univers que nous sommes, le microcosme que nous sommes, et nous le complétons, non pas du tout en artiste, mais nous le complétons de l'intérieur, par l'acquisition des vertus. L'acquisition des vertus, c'est donc un ennoblissement de notre nature et de nos facultés, pour que nos facultés puissent vivre d'une manière plus parfaite, pour que nous puissions aller plus loin. Voyez, donc, c'est de l'intérieur une auto-éducation. C'est la prise en main de ce que nous sommes, en sachant très bien qu'il y a en nous des imperfections. Alors c'est augmenté du fait même du péché et des conséquences du péché, du fait même qu'il y a en nous les passions, du fait même qu'il y a en nous l'imaginaire, et que nous risquons toujours de nous laisser prendre par l'immédiat, c'est-à-dire par les passions, et que nous avons une peine énorme de dépasser cet immédiat. C'est les vertus qui permettent cela. La vertu de prudence, c'est une vertu qui nous permet de ne pas nous laisser encombrer par l'immédiat. C'est de mettre la finalité qui nous permet de dépasser, de relativiser toujours l'immédiat. Oui. Alors, il y a la vertu de prudence, il y a la vertu de justice, il y a la vertu de force, il y a la vertu de tempérance, les quatre vertus. Alors, on comprend très bien que dans la prima secundae, saint Thomas situe la place de la vertu. Pourquoi y a-t-il une nécessité de vertu? Alors, je dirais qu'il y a deux raisons. Parce que notre nature humaine n'est pas parfaite en soi. Elle demande d'être perfectionnée. Et une seconde raison, les conséquences du péché. Nous avons besoin d'assainir le terrain. Il faut assainir le terrain, c'est-à-dire enlever tout le paludisme. Et ce paludisme qui est en nous, c'est l'imaginaire. Et c'est les passions liées à l'imaginaire. Et qui nous empêchent alors d'être capables de vivre en enfant de Dieu. Capables de vivre une vie proprement humaine. Alors on a besoin des vertus pour lutter contre cela. C'est pour ça que la vertu a toujours deux aspects. Elle a un aspect, si vous voulez, de barrage contre les passions. Il y a un aspect d'ennoblissement de notre nature pour nous permettre de faire que les passions deviennent humaines. Il ne faut pas supprimer les passions, mais qu'elles deviennent humaines. Autrement, elles arrêtent l'humain et elles empêchent l'humain. Et puis, en troisième lieu, parce qu'il y a la grâce, alors il y a les vertus infuses. Et les vertus infuses ont besoin d'un support des vertus acquises pour pouvoir s'exercer pleinement. Donc, vous voyez, il y a trois raisons pour lesquelles les vertus existent. C'est important. Mais c'est des vertus, c'est le fruit de nos activités. C'est quelque chose qui est en nous. Alors, pourquoi, dans la prima pars, une première vision des vertus pour les situer, dans la seconda secundae, on la regarde en elle-même. Oui, d'où l'importance des vertus. Et on comprend très bien que dans la seconda secundae, en ça, c'est un traité purement philosophique, on ne ferait pas ça. Mais c'est un traité théologique. Alors, parce que c'est un traité théologique, on doit regarder les vertus théologales en elles-mêmes. Vous voyez ? Parce que les vertus théologales en elles-mêmes sont justement quelque chose qui nous apporte comme une nouvelle faculté, une nouvelle puissance. C'est le propre des vertus théologales. Les vertus acquises morales ne nous apportent pas une nouvelle faculté. Donc, étudier la faculté en elle-même, étudier ce que c'est que l'intelligence en elle-même, étudier ce que c'est que la volonté en elle-même, suffisent. Mais comme les vertus théologales sont comme de nouvelles facultés, de nouvelles puissances, de nouvelles dynamis. Alors il faut les étudier en elles-mêmes pour que nous comprenions bien le mystère de la grâce. La grâce se comprend parfaitement à travers la foi, l'espérance et la charité. Oui. Et alors, comme il y a les vertus théologales, il y a les vertus infuses, d'où la nécessité de regarder les vertus pour elles-mêmes, dans la lumière des vertus théologales. Oui. Pourriez-vous dire un mot de l'articulation loi-grâce qui n'est pas fortuite? Alors, c'est évident que n'est pas fortuite. Le point de vue de la loi est là pour nous faire comprendre, comment nous sommes appelés à une vie vertueuse. La loi, ça nous aide à devenir vertueux. C'est pour être vertueux, la loi. Et la grâce, c'est pour dépasser le point de vue de la loi et de la vertu, et c'est pour être enfant de Dieu. Mais la loi ne supprime, je veux dire, la grâce ne supprime pas la loi. Pas un iota de la loi ne disparaît. Donc la grâce est là pour nous permettre d'aller plus loin. Mais c'est toujours par la grâce et par les vertus théologales que nous comprenons le sens des vertus acquises. Oui, toujours la finalité qui nous fait comprendre la structure. Autrement, on risque de formaliser. Alors de regarder les vertus en elles-mêmes, de regarder la loi en elle-même. Enfin, regarder la loi en elle-même, regarder les vertus en elles-mêmes, ça risquerait de formaliser, de tomber dans, si vous voulez, dans un certain pharisaïsme. Oui. Adam et Ève, c'est bien difficile, hein, savoir exactement ce que c'était qu'Adam et Ève. Adam et Ève avaient l'état de justice originelle. Et bien dans cet état de justice originelle, je suis persuadé qu'Adam et Ève auraient dû acquérir des vertus. Oui, ils avaient des vertus infuses, mais ils auraient dû acquérir des vertus. Parce que la nature humaine implique l'acquisition des vertus pour l'ennoblissement. C'est un fruit. Oui. Vous devez faire fructifier vos talents. Et vos talents, c'est les vertus. Si vous ne faites pas fructifier vos talents, il y a quelque chose que vous ne faites pas fructifier en vous. Vous êtes capable d'être prudent. Vous êtes capable d'acquérir la justice. Vous êtes capable d'acquérir la force. Il faut l'acquérir. Et c'est des exercices qui font acquérir ça. Ça ne va pas nous tomber du ciel. Les vertus infuses nous tombent du ciel, mais les vertus infuses sont une exigence d'acquisition des vertus. Oui. Et l'acquisition des vertus est normale à l'homme. Donc même en justice originelle, il y aurait eu, je crois, l'acquisition des vertus. Moi, je crois tout à fait. Je ne crois pas du tout que l'acquisition des vertus est propre à notre état de pécheur. Alors, vous voyez, la grâce a enlevé l'état de justice originelle, il y avait des... Alors il faut bien se dire que dans l'état de justice originelle, il y avait des grâces supplémentaires, le fait par exemple de ne pas mourir. Ça, vous ne pouvez pas l'acquérir par la vertu. Donc, vous perdez là une grâce charismatique de la justice originelle. Les grâces charismatiques de la justice originelle ne nous ont pas rendues. Certains prétendent alors que les grâces du pendule, c'est des grâces de l'état de justice originelle qui restent au-delà du péché. Je ne crois pas ça. Mais c'est certain, ça fait partie des théories que certains soulèvent aujourd'hui. Je ne crois pas du tout. Je crois que de fait, il peut y avoir des capacités de comprendre les îles Saint-Saint-Saint, comme dont parle saint Thomas, alors ça c'est très bien, mais ce n'est pas du tout un retour au paradis terrestre ou quelque chose du paradis terrestre qui demeure. Le grand charisme de la justice originelle, c'était de ne pas mourir. Ça, c'était le grand charisme. Le charisme merveilleux de la grâce de justice originelle. Bon, ce charisme étant disparu, je crois que tous les charismes de la justice originelle disparaissent. Mais nous devons acquérir les vertus acquises. Bon. Alors, il y a une autre question, mais celle-là, je n'ai pas envie de la traiter. En quoi l'Église est-elle notre mère? C'est le traité de l'Église. On devra tout voir. Alors l'Église est notre mère parce que elle est chargée par le Christ d'être la bonne terre qui garde la semence de la parole de Dieu. Elle est celle qui est la tradition. Et la tradition est maternelle parce qu'elle nous aide à vivre pleinement de la foi. la tradition nous aide à nous nourrir de la parole de Dieu. Et l'Église reçoit les sacrements, et par les sacrements, elle nous enfante à la vie divine. Oui. Alors c'est tout le grand mystère du sacerdoce du Christ, du sacerdoce royal du Christ confié à l'Église. Alors nous allons tout de suite, si vous voulez, parce que je crois que c'est bien d'entrer tout de suite dans ce que représente la grâce. Il faudrait parallèlement à ce traité de la grâce, comme toujours dans saint Thomas, voir parallèlement, vous voyez, les vertus théologales, voir parallèlement, je vous dis ça, c'est parce que c'est, il ne s'agit de pas isoler un traité, hein, et puis de voir aussi comment le mystère de la grâce est vu dans le mystère du Christ, la plénitude de grâce du Christ, c'est-à-dire le mode chrétien de grâce. Saint Thomas ne va pas étudier ici le mode chrétien de la grâce, il n'étudie pas la grâce chrétienne, il étudie la grâce en soi. Ça, c'est le propre de la théologie spéculative. Tandis qu'en théologie mystique, on regarderait la grâce chrétienne tout de suite. Et donc, il faut comprendre comment la grâce n'est plénière que dans le Christ. Et comment la grâce est plénière en Marie. Donc en théologie mystique, on étudierait tout de suite la grâce plénière dans le Christ et la grâce plénière en Marie. Voyez, ce qui nous aiderait à mieux comprendre ce que c'est que la grâce. Mais il est évident qu'il est bon de regarder la grâce en soi. Voyez, on va dire la raison de grâce. Qu'est-ce que c'est que la grâce? Qu'est-ce que c'est que la grâce? Je ne peux pas savoir ce que c'est que la grâce. Si je voyais la grâce, je verrais la vision béatifique. Donc je ne peux pas savoir le quid de la grâce. Mais je peux essayer de comprendre le comment de la grâce, le commodo et le qualis. C'est toujours les deux grandes questions du théologien. Le commodo et le qualis. C'est-à-dire la manière d'exister de la grâce. Il nous faut ici considérer le principe extérieur des actes humains. Voyez, alors là aussi la parenté avec la loi. La loi est aussi un principe extérieur, mais à la différence de la vertu, qui est un principe intrinsèque. Mais la loi est tuteur, tandis que la grâce est principe extérieur, non pas du tout comme tuteur. C'est un principe qui vient s'ajouter, et c'est pour ça qu'on dit extérieur. Voyez, si vous voulez regarder la phusis, si vous regardez la phusis, donc notre nature humaine, la loi, principe extrinsèque, cause comme modèle, cause exemplaire. La cause exemplaire est extrinsèque. Hein? Donc c'est un principe extrinsèque, la loi. Tandis que la grâce, principe extrinsèque, mais immanent. Au fond, on devrait dire principe transcendant. Ce serait mieux. On dirait que la loi est un principe extrinsèque, un tuteur qui vient nous aider. Comme une cause exemplaire. Oui, la loi est comme une cause exemplaire.
Elle ne peut pas être intériorisée, la loi.
La loi est intériorisée par la vertu. J'intériorise la loi par la vertu. Je n'ai pas d'autre moyen d'intérioriser la loi. Donc ça reste toujours un principe extrinsèque. J'aurais toujours besoin de la loi. J'aurais toujours besoin de ce tuteur. Vous voyez ? Donc il n'est jamais totalement. Il est quelqu'un de parfaitement vertueux. Hein? Quelqu'un de parfaitement vertueux. Donc au fond, seul Marie n'aurait pas besoin de la loi, mais elle l'applique pour entrer dans la loi commune. Vous voyez, le parfait a son privilège. Mais quelqu'un de parfaitement vertueux n'aurait pas besoin de la loi. Mais comme nous ne sommes pas parfaitement vertueux, nous avons toujours un devenir, nous avons toujours besoin de la loi. C'est pour ça que nous avons toujours besoin d'un règlement. Oui. Et puis la loi, vous comprenez, regarde aussi la communauté. On serait seul, un ermite a-t-il besoin d'une loi? S'il est vertueux, non. Et comme il n'est pas vertueux. La loi, regarde, elle se fait de la communauté. Toujours la communauté. Je ne donne pas une loi pour un individu. Jamais une loi pour un individu. La loi est universelle. Oui. Donc elle regarde la communauté. C'est le caractère de la loi, ça. Elle est universelle. Donc elle regarde l'aspect de la communauté. Un principe extrinsèque, cause exemplaire.
pour m'aider. Donc, tuteur, je m'appuie sur la loi. J'ai besoin de la loi. Je m'appuie parce que je suis imparfait. Donc, j'en ai besoin. Parce que ça me permet d'aller plus vite. Ça me permet de voir en grandes lettres ce qui devrait être inscrit en moi, en petites lettres, en les vertus. Donc, la loi écrit en règle. La loi en vue du bien commun. C'est pour le bien commun, la loi. C'est pour la communauté. Alors, la grâce, au contraire, c'est un principe transcendant. Donc, en tant qu'il est transcendant, il est extérieur, c'est très vrai ce que dit saint Thomas. Mais en même temps, la grâce est immanente. Elle est au-dedans de moi-même. Elle est enracinée, c'est pour ça qu'elle sera une greffe, comme diront les pères de l'Église. C'est une greffe. Je ne dirai jamais que la loi est une greffe. La loi n'est pas une greffe, tuteur. La différence entre le tuteur et la greffe. Que la loi est vraiment de l'extérieur, un principe extrinsèque, qui me permet d'être droit, qui me permet au milieu des tornades, donc des agitations, des violentes, d'être droit, de rester debout. Ça, c'est le tuteur. Je dis. On va très bien faire tous les exemples du tuteur. L'exemple, le petit arbre a besoin d'un tuteur. Il a besoin d'un tuteur parce qu'autrement, il ne pourra pas se tenir debout. Nous avons besoin de ça. La grâce n'est pas un tuteur. Jamais les pères de l'Église ne disent que la grâce est un tuteur. La grâce est une nouvelle naissance. Donc c'est quelque chose qui est à la fois transcendant extérieur, extérieur à la nature, parce qu'elle transcende la nature, et en même temps, ce qu'elle est immanent. Et ce qu'il y a de plus immanent, la nature.
Oui. La nouvelle loi,
La nouvelle loi, c'est autre chose. Hein. Ici, je parle de la loi ancienne. La loi au sens fort. Bon, si vous prenez la nouvelle loi, qu'est-ce que c'est que la nouvelle loi? C'est la loi de la grâce et c'est l'Esprit Saint. Alors à ce moment-là, c'est immanent. Oui, c'est deux choses différentes. Tandis que je prends la loi au sens le plus fort de la loi ancienne. Vous voyez? Dieu nous donne là. Alors on est obligé de dire la loi nouvelle qui est intrinsèque et qui sera le mystère de la grâce. Vous voyez? Et elle est loi parce que justement, elle transcende et est extérieure. Autrement, elle ne serait pas loi. Alors, en tant qu'elle transcende, il y a quelque chose qui nous dépasse. Oui.
Est-ce qu'on peut faire le lien entre la loi et la vertu, et la loi nouvelle et la grâce?
La loi nouvelle...
La
loi nouvelle, c'est la grâce. La loi ancienne, c'est les vertus. L'acquisition des vertus. C'est pour acquérir les vertus. C'est pour que nous puissions acquérir les vertus. C'est pour ça qu'il y a une loi. D'imparfait comme ça. Alors, quand je prends la loi du cours... C'est toujours la loi ancienne. Toujours la loi ancienne, et c'est l'analogie de la loi, et c'est le point de vue de ce principe extrinsèque qui est universel et qui regarde le bien commun. Et qui regarde le point de vue de la communauté. Vous voyez ? Quand je dis loi nouvelle, vous voyez que c'est très analogique. Parce que d'une certaine manière, c'est plus du tout la loi. C'est le dépassement de la loi, c'est plus la loi. Vous voyez ? Alors, analogiquement, c'est très bien. On dit la loi nouvelle, c'est très bien. En fond, c'est la grâce. Et c'est la loi de la charité, c'est l'Esprit Saint. Vous voyez ? Alors, c'est le mystère de la grâce. Mais je crois qu'il faut d'abord bien comprendre la différence entre loi et grâce, de cette manière-là. Tous les deux principes extrinsèques, mais ce principe extrinsèque tuteur demeure tout à fait en dehors, tandis que la grâce, elle, principe extrinsèque transcendant, qui est immanent. D'où, si je prends la loi nouvelle, qui est le mystère de la grâce, alors elle est immanente. Vous voyez ? Elle sera toujours transcendante. Et parce qu'elle est transcendante, elle est extérieure. Parce qu'elle me dépasse toujours. Elle me dira toujours des exigences dont je ne vis pas encore actuellement. Il y a une poussée intérieure, l'Esprit Saint, qui est présent à la grâce, me fait toujours aller au-delà. Et c'est en ce sens-là que c'est un principe extrinsèque, transcendant. Tandis que la vertu, qui est parfaitement possédée, ne me fait pas aller au-delà. Elle me fait aller selon la vertu. Et c'est pour ça que la vertu me permet d'agir avec joie. Tandis que la grâce ne me permet pas toujours d'agir avec joie. Parce que la grâce est une exigence qui dépasse, et qui dépasse toujours. Tandis qu'au contraire, la vertu est parfaitement en connaturalité avec moi. Il faut bien voir ça. La vertu, il n'y a rien d'extérieur. Elle est en connaturalité. Une vertu acquise m'agrandit, m'ennoblit. Tandis que la grâce me fera toujours qu'il y aura quelque chose qui me sera au-delà de ma connaturalité. Donc, il y a quelque chose qui transcende.
Il faut ici considérer le principe extérieur des actes humains, c'est-à-dire Dieu, en tant qu'il nous aide par le moyen de la grâce à agir avec rectitude. Nous étudierons, donc ça c'est simple, c'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui me donne un principe nouveau, un souffle nouveau pour agir d'une manière qui n'est plus naturelle et qui est surnaturelle. Et la grâce sera justement cet effet qui vient en moi. Nous étudierons la grâce de Dieu en elle-même, sa cause et ses effets. C'est très simple comme analyse, vous voyez. La grâce en elle-même, qu'est-ce que c'est que la grâce? Mais enfin, en réalité, le quid de la grâce, nous ne pouvons pas le savoir, donc ce sera le comment de la grâce. L'étude de la grâce en elle-même se subdivise en trois parties. D'abord, la nécessité de la grâce. Vous voyez, dès qu'on est dans l'ordre surnaturel, toujours c'est la nécessité. La nécessité de la théologie. La nécessité de la révélation. La nécessité de la doctrina sacra. La nécessité de la foi. La nécessité de la grâce. Quand il s'agit de la foi, il n'étudiera pas en premier lieu la nécessité, mais ça viendra après. Donc, la nécessité de la grâce, puis l'essence même de la grâce. L'essence même de la grâce. Ce qu'est la grâce. Enfin, sa division. Donc, il s'agit de voir la nécessité. Il comprendra 10 articles. Là, ce sera intéressant de voir, vous voyez, les articles de la nécessité de la grâce par rapport à ce qu'on représente la nécessité de la révélation. Premièrement, donc, sans la grâce, l'homme peut-il posséder quelques vérités? Pour comprendre la nécessité, regarde ce que nous pouvons faire sans la grâce. Et par là, on voit tout de suite l'importance de la grâce. Sans la grâce, l'homme peut-il faire le bien ou même le vouloir? Sans la grâce, l'homme peut-il aimer Dieu par-dessus tout? Sans la grâce, l'homme peut-il accomplir les préceptes de la loi? Sans la grâce, l'homme peut-il mériter la vie éternelle? Sans la grâce, l'homme peut-il se préparer à la grâce? Sans la grâce, l'homme peut-il se révéler, se relever du péché? Sans la grâce, l'homme peut-il éviter le péché? Vous voyez, 8 questions négatives. Très, très curieux, manière de voir ça. C'est très propre au traité de la grâce. Bien montrer la transcendance de la grâce. Et pour montrer la transcendance de la grâce, je montre le dénuement de l'homme sans la grâce. La nudité de Job, n'est-ce pas? La nudité de l'homme sans la grâce. Alors, après, deux questions. Celui qui possède la grâce peut-il, sans un autre secours divin, faire le bien, éviter le mal? Donc, ce qu'apporte la grâce, peut-il par lui-même persévérer dans le bien? Deux questions. Le point de vue de la durée. Le point de vue de l'efficacité et de la durée. Article 1er. Sans la grâce, l'homme peut-il posséder quelques vérités? Point de vue de l'intelligence. Alors, vous voyez qu'ici, nous voyons tout de suite, et ça c'est intéressant à voir, il faudrait mettre là historiquement des noms vis-à-vis de ceux qui prétendent l'inverse. On verra les objections après, je vois tout de suite le corps de l'article, si vous voulez, plus vite. Le même saint Augustin met dans ses rétractations, je n'approuve pas ce que j'ai dit dans cette prière. Ça, c'est une rétractation par rapport à une prière. On peut se tromper même en priant, vous voyez, c'est irrationné. Ça peut arriver, on peut se prier. Il pouvait avoir une très bonne intention, et il avait sûrement une très bonne intention, il priait. Mais il se trompait. Vous pouvez dire, parce que je prie, c'est vrai. Non, ce n'est pas toujours juste. Je n'approuve pas ce que j'ai dit dans cette prière, ô Dieu, qui avait voulu que la vérité fût réservée à ceux qui sont purs. Car on peut répondre que beaucoup d'hommes corrompus possèdent bien des vérités. Donc le premier Augustin, et le second Augustin, quand il s'agit de ce point de vue-là, les rétractations. Étant donné que c'est la grâce qui purifie, cette rétractation tend à prouver que sans la grâce et de lui-même, l'homme peut arriver à la vérité. Il y a quelque chose qui demeure saint dans l'homme.
Ça, c'est la grande position de l'Église catholique. Il y a quelque chose qui demeure saint dans la nature humaine, c'est le nous. Le nous n'est pas atteint par le péché. Et donc, sans la grâce, l'homme est capable d'atteindre une certaine vérité. Ce que nous allons voir, une certaine vérité, pas toute vérité, mais une certaine vérité. Il faut sauvegarder quelque chose qui, dans l'homme, malgré le péché, reste saint. C'est sa capacité d'atteindre la vérité.
Alors, voyons encore de l'article. Bon, vous voyez ça. Alors, évidemment, quand le traité de la grâce, c'est toujours saint Augustin, vous allez voir. Saint Augustin joue un rôle capital, parce que c'est le grand-père de la grâce. Connaître la vérité, c'est faire usage de la lumière intellectuelle. Cognoscere veritatem est usus quidam. C'est un certain usage, ou c'est un acte de la lumière intellectuelle. Et l'amener à l'acte. L'apôtre dit en effet, tout ce qui devient manifeste est lumière. Tout ce qui est manifesté est lumière. C'est plutôt ça. Omne quod manifestatum, lumen est. Mais faire usage de quelque chose implique un mouvement. Si l'on prend ce mot de mouvement dans son sens large, de telle sorte que l'intellection et le vouloir puissent être appelés des mouvements, comme le fait Aristote. Ce sont des opérations, donc ce sont des mouvements. Il y a un certain devenir. Bon, ça, c'est la fameuse. Alors, voyez tout de suite, hein, donc, quand il s'agit du corps de l'article, Aristote. Quand il s'agit du sept contrats, Saint-Augustin. C'est le cocktail de saint Thomas habituel. C'est une dose augustinienne, une dose aristotélicienne. Et de là, vous avez saint Thomas. Alors, c'est pour ça que c'est là, vous voyez, où toutes les manières dont on peut interpréter saint Thomas en disant saint Thomas est néoplatonicien, parce que c'est à l'ordre du jour, ça. Alors, saint Thomas est néoplatonicien, vous voyez bien, il cite saint Thomas. Oui, mais attention, où est-ce qu'il cite saint Augustin? Pas du tout comme néoplatonicien. Il cite saint Augustin comme une autorité. Parce que c'est une autorité de père de l'Église. Malgré qu'il soit néoplatonicien, il est saint Augustin. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, tout dépend. Si vous dites, parce qu'il est néoplatonicien, je prends saint Augustin. Je ne crois pas du tout que c'est la pensée de saint Thomas. Saint Augustin est un saint, mais il est évidemment proche du néoplatonisme. C'est une forme de néoplatonisme, saint Augustin. Et malgré ça, il est saint. Parce que sa foi est tellement forte, son espérance est tellement forte, sa charité est tellement forte qu'il arrive à absorber le néoplatonisme et à le transformer. Et saint Thomas ne suit pas saint Augustin dans le corps de l'article, c'est-à-dire dans la structure de sa pensée théologique. Parce que la pensée théologique a toujours deux aspects, le point de vue de l'autorité sur laquelle on s'appuie, c'est très important pour un théologien, et puis la structure de pensée. Et sa structure de pensée, ici, elle est aristotélicienne. On le voit bien, il fait tout de suite à cela. Faire usage de quelque chose implique un mouvement. Usus qui libet, hein, chaque usus, importat quidam motus. Vous usez de votre crayon. Le fait que vous usez de votre crayon, ben, il y a un certain mouvement. Tout usage, vous usez d'une scie, il y a un certain mouvement. Quidam, donc, quemdam, quilibet motum. Donc, il y a toujours, tout, quilibet usus, quemdam motum. N'est-ce pas ? Implique un certain mouvement. Pris au sens large, selon que intelligere et velle, c'est un certain motus, disent un certain motus, selon le philosophe. Donc, comprenons bien, il y a deux motus. Il y a un motus d'un devenir et un motus qui implique une succession. Et puis, il y a un motus qui est une opération vitale. Et l'opération vitale exprime avant tout le point de vue de l'immanence, mais implique quand même un certain devenir. Or, considérons ce qui se passe dans le monde des corps. Nous voyons que pour obtenir un mouvement, il faut non seulement que le corps a un mouvoir et sa forme qui est principe de son mouvement et de son activité, mais encore qu'il reçoive une impulsion du premier moteur. Dans l'ordre physique, ce premier moteur, c'est le corps céleste. Ainsi, quand bien même le feu aurait toutes ses qualités calorifiques voulues, il ne consumerait pas sans la motion du corps céleste. Ça, c'est toute la grande physique d'Aristote, c'est très intéressant à voir. Il faudra se demander hein, si c'est encore... Il faudra se demander si c'est encore juste, ces choses-là. Hein. Je peux dire ça. C'est le point de vue de la causalité propre et de la causalité analogique. C'est qu'un corps fait partie d'un tout. Et ça, la science moderne l'affirmerait avec encore plus de force. Un corps fait partie d'un tout. Si un corps fait partie d'un tout, nécessairement, il ne peut exercer son mouvement qu'en étant lié au tout. Et c'est tout simplement ce que saint Thomas l'a souligné. Il ne consumerait pas sans la motion du corps céleste. Alors, nous mettrions corps céleste, la motion du tout. Vous voyez, plutôt que corps céleste. Parce que pour saint Thomas, le corps céleste, c'est quelque chose de très particulier. Alors, il faut faire un petit peu attention. Corps céleste, pour saint Thomas, vous savez bien, c'est la quintessence. Et les corps célestes ont cet immense privilège d'être incorruptibles. Tandis que pour nous, nous ne pouvons pas dire ça. Mais, de même que tous les mouvements matériels sont en dépendance du mouvement du ciel, considéré comme premier moteur matériel, de même, tous les mouvements en général, qu'ils soient corporels ou spirituels, sont en dépendance du premier moteur universel qui est Dieu. Et c'est pourquoi, quelle que soit la perfection d'une nature corporelle ou spirituelle, elle ne pourra arriver à produire son acte que si elle est mue par Dieu. Il faut noter toutefois que cette impulsion relève des desseins providentiels de Dieu, tandis que celle qui vient du corps céleste représente une nécessité de nature. Et c'est pas commode hein, de commencer comme ça pour notre monde d'aujourd'hui. Hein, c'est, vous voyez toutes les critiques qu'on peut faire, hein, qui sont intéressantes à voir du reste. Il faut bien comprendre. Saint Thomas illustre sa pensée par le point de vue du monde physique. C'est une analogie, hein. C'est pas une preuve. Faisons grande attention, et c'est ça que les modernes ne comprennent pas. Quand ils lisent ça, ils disent, voyez, tout ce que saint Thomas nous dit ça repose sur la physique d'Aristote. Mais non, il illustre son raisonnement par la physique. Donc, même si la physique d'Aristote est fausse, le raisonnement de saint Thomas est vrai. Mais il n'est plus illustré. C'est deux choses différentes. Bien comprendre, c'est un raisonnement analogique. Donc ce n'est pas du tout une preuve. C'est pas une preuve du tout. Saint Thomas nous fait comprendre, alors on reprendrait ça et on devrait reprendre ce raisonnement. Je ne peux pas le donner comme ça aujourd'hui. C'est bien évident. Hein. Je ne peux pas le donner comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute partie a son mouvement propre, mais que le mouvement propre d'une partie dépend du tout. Tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Or, au niveau spirituel, je fais partie d'un tout. Comme au niveau matériel, je fais partie d'un tout. Le corps dépend de tout l'univers. Et le mouvement du corps dépend du mouvement de tout l'univers. Or, au point de vue spirituel, mon âme dépend d'un tout. Je suis une partie, je suis créé. Donc je suis partie. Je dépends donc de Dieu. Oui. C'est tout simplement la grande analogie qui prend la partie dépendant du tout.
Par ailleurs, ce n'est pas seulement la motion qui vient de Dieu, considérée comme premier moteur. C'est encore toute perfection de la forme naturelle des êtres qui vient de lui, du fait qu'il est acte premier. Il s'ensuit que l'activité de l'intellect, comme aussi celle de n'importe quelle créature, dépend de Dieu doublement. D'abord, c'est de lui que cet intellect tient la forme, d'où découle son action. Ensuite, c'est de lui encore qu'il reçoit l'impulsion pour agir. Comme c'est intéressant à voir, hein? Comme c'est commode à bien saisir. Il y a deux impulsions, une double dépendance. Le nous dépend de Dieu. Le nous est notre volonté. Dépend de Dieu, puisque c'est créé par Dieu, c'est une forme créée par Dieu. C'est une dynamis, une puissance créée par Dieu. C'est une puissance qui est créée par Dieu, donc elle dépend de Dieu en tant que puissance, elle est relative à Dieu en tant que puissance, puisqu'elle émane de notre âme qui est créée directement par Dieu. Donc elle dépend directement de Dieu comme puissance, et dans son exercice, elle va dépendre aussi de Dieu. Alors ça, c'est une distinction capitale que saint Thomas va reprendre constamment, et qui est bien importante à saisir, la double dépendance. La dépendance du côté de la structure, la dépendance du côté de l'exercice. Oui. Par ailleurs, ce n'est pas seulement la motion qui vient de Dieu considérée comme premier moteur, c'est encore toute perfection de la forme naturelle des êtres qui vient de lui, du fait qu'il est acte premier. Il s'ensuit que l'activité de l'intellect, comme aussi celle de n'importe quelle créature, dépend de Dieu doublement. D'abord, c'est de lui que cet intellect tient la forme d'où découle son action. Ensuite, c'est de lui encore qu'il reçoit l'impulsion pour agir. Donc, une double dépendance dans sa nature et dans son exercice. Cependant, chaque forme donnée par Dieu aux créatures possède une efficacité réelle à l'égard de tel acte déterminé, correspondant à la propriété de cette forme. Pour que son pouvoir s'étende au-delà, il faut qu'une nouvelle forme soit surajoutée à la première. Pour que son pouvoir s'étende au-delà, il faut qu'une nouvelle forme soit surajoutée à la première. L'eau, par exemple, ne peut servir à chauffer que si elle a été elle-même soumise à l'action calorifique du feu. De même, l'intellect humain a reçu une forme déterminée, la lumière intellectuelle, qui, à elle seule, suffit pour certaines connaissances intellectuelles, celles que nous pouvons acquérir en partant des perceptions sensibles. Mais lorsqu'il s'agit de connaissances d'un ordre supérieur, l'intellect humain ne peut y parvenir qu'à condition d'être renforcé par une lumière plus haute, la lumière de la foi ou celle de la prophétie. Et c'est ce qu'on appelle la lumière de grâce, parce qu'elle est surajoutée à celle de la nature. De tout cela, il faut tirer les conclusions suivantes. Vous voyez les analogies, c'est un raisonnement très analogique que prend saint Thomas. Il faut donc tirer les conclusions suivantes. Pour arriver à la conséquence d'une vérité, de quelque ordre qu'elle soit, l'homme a besoin d'un secours divin, c'est-à-dire d'une motion divine au moyen de laquelle son intellect arrive à son acte. Mais une nouvelle illumination surajoutée à la lumière naturelle de l'intellect n'est pas requise pour toutes les espèces de vérités qui sont à connaître. Cette illumination de surcroît est nécessaire seulement pour certaines vérités qui dépassent l'ordre de la connaissance naturelle. Notons cependant que parfois Dieu instruit miraculeusement, par sa grâce, certains hommes de vérités qui sont pourtant du domaine de la raison naturelle. De même que quelquefois il opère miraculeusement des phénomènes que la nature peut produire. Voyez comment saint Thomas montre la nécessité d'intervention de Dieu. C'est ça qu'il veut montrer. La nécessité de la grâce. Donc la nécessité d'une intervention de Dieu. Est-ce que l'homme peut posséder quelque vérité sans Dieu ? Si vous prenez sans Dieu, c'est-à-dire sans aucun secours extérieur à lui, non, puisqu'il est une créature. Et que la créature est totalement dépendante de Dieu dans toutes ses activités. Et alors, comme j'allais dire, elle est doublement dépendante de Dieu. Et puis alors, elle est dépendante d'une troisième façon, parce qu'il y a un, deux. Elle est dépendante d'une troisième façon, si Dieu veut élever le nous à des vérités qui sont au-delà de la nature. Alors à ce moment-là, il y a une illumination. Vous voyez bien comment ça va avec la foi. C'est une illumination qui permet au nous d'aller au-delà de ce qu'il connaît naturellement. Donc vous voyez que la réponse n'est pas simple, hein. Peut-on connaître une vérité sans le secours de Dieu ? Répondons avec beaucoup de précision. Sans le secours de Dieu, est-ce que vous voulez dire que la créature comme créature peut agir sans Dieu ? La créature comme créature est totalement dépendante de Dieu. Elle est dépendante de Dieu dans son action. Elle est dépendante de Dieu dans sa dynamisme, dans sa capacité d'agir. Elle est dépendante de Dieu dans son exercice. Elle n'a pas besoin d'une illumination nouvelle pour atteindre ce qu'elle est capable d'atteindre par elle-même. Donc, une vérité naturelle. Mais elle a besoin d'une nouvelle illumination si elle doit atteindre des vérités qui la dépassent. D'autre part, comprenons que Dieu peut agir, alors, charismatiquement, c'est quatrième action. Il y a quatre actions de Dieu possibles qu'il faut distinguer. Quatrième action, Dieu peut agir charismatiquement pour suppléer à la nature. Vous voyez ? Alors, ce ne sera pas nécessairement au-delà, ce sera tout simplement un don que Dieu donnera pour suppléer à certaines faiblesses de la nature. Donc, quatre interventions de Dieu qu'il faut bien comprendre. Oui ?
Quand vous parlez de l'illumination, quand tu parles de l'illumination de la grâce,
oui.
Il faut entendre la à la fois forme et puis exercice.
Ah oui, les deux. Forcément, on les retrouve. Quand on les retrouve. Ah oui, oui, mais faisons attention.
Où est-ce que vous...
Non. C'est quelque chose de nouveau, vous voyez, c'est pour ça que je dis. Je crois qu'il faut bien distinguer. Vous retrouverez d'une certaine manière après. Alors il la reprendra après. Je ne veux pas compliquer ici.
Est-ce qu'on peut parler d'élimination naturelle quand on dit...
Non.
L'élimination naturelle, c'est oui, la grâce et l'exercice.
Oui, c'est l'exercice, c'est pour ça que je fais quatre, troisième intervention, la grâce... au-delà de la nature. Bon. Dans cette illumination, on pourra discerner encore des moments différents. Et ce sera la division de la grâce. Vous voyez ? Mais ça vient après. Vous voyez ? Je ne vais pas mettre tout de suite ici la division de la grâce. Je crois qu'il faut distinguer ici les quatre interventions que saint Thomas note. Il en note quatre.
Il semble poser ça du côté de la forme.
Ah oui, tout à fait. Le don de la forme. Le don d'une illumination. Il ne parle pas... Il parlera ensuite dans la division de la grâce, en voyant que de fait il y aura différentes grâces, il y a le don de la foi, et puis il y a les secours que Dieu nous donne pour exercer notre foi. Oui. Et ça viendra après, ce sera la division de la grâce. Tandis que si je prends la structure de cet article, je vois que saint Thomas souligne quatre interventions de Dieu possibles. Deux selon la nature. La partie à l'égard du tout. Et c'est l'analogie de la partie à l'égard du tout. La créature, comme créature même spirituelle, est une partie. Donc elle a besoin de sa cause première. Elle a besoin de Dieu. Et cette influence se fait doublement. Du côté de la structure, du côté de l'exercice. Cette partie peut recevoir un surcroît de lumière, l'illumination de la foi, pour des vérités qui dépassent la dynamis naturelle. Et elle peut recevoir un secours passager, charismatique, pour fortifier sa nature.
Nous avons tout de suite actuellement l'autre cours, hein, la métaphysique.
Il n'y a pas d'intervalle entre deux. Parce que...